Et c'est une nouvelle semaine que nous allons passer ensemble au cœur de Limoges et plus précisément à la découverte du site de la bibliothèque francophone multimédia, celle que l'on appelle régulièrement l'ABFM, qui se trouve eh bien, juste à côté de la mairie de Limoges. Vous ne pouvez pas la rater, ce grand bâtiment vitré qu'on aura l'occasion évidemment de parcourir tout au long de cette semaine. Mais on va d'abord faire les présentations avec ce site et nous sommes eh bien, installés dans le bureau du directeur de cette BFM depuis le mois de mai 2016, Julien Barlier. Merci de nous accueillir pour évoquer ce site, j'ai envie de dire emblématique, c'est vraiment un lieu de passage, un lieu de regroupement de la population autour de la culture, au sens, on le verra, très très large.
Oui, effectivement, la BFM, et c'est sous l'angle de l'anecdote sans doute, mais est appelée BFM et non pas bibliothèque par ses habitants. Et j'étais très surpris en arrivant sur Limoges de constater que le mot bibliothèque n'existait pas parmi la population. Tout le monde dit « je vais à la BFM ».
Ça, c'est plutôt bien. Ça veut dire que il n'y a pas ce côté un peu élitiste de la culture. Finalement, c'est un lieu que tout le monde s'est déjà approprié.
Oui, en effet. Alors, ce sont les chiffres qui le disent, puisque jusqu'il y a peu, il y avait près de 35%, je crois, de la population qui était inscrite à la BFM. Et surtout, effectivement, bien que le geste architectural que vous venez de rappeler avec ce grand bâtiment qui rappelle aussi la dimension symbolique de ce que peut être une bibliothèque, n'intimide pas. Et les gens, les habitants de Limoges, mais bien au-delà de tout le bassin, le fréquentent facilement.
Retour sur les origines de ce projet, hein, qui ne date pas d'hier.
Oui, alors la bibliothèque cette année a 18 ans, donc elle entre en majorité. Et elle est issue de l'imagination d'un grand architecte qui est Pierre Riboulet, qui a effectivement travaillé sur des matériaux nobles et locaux, à partir du granit qui est très présent, du bois et de cette dimension vitrée pour consacrer son ouverture à la ville.
Elle était bien pensée, surtout elle jouxte, on l'a dit, la mairie, hein, qui est reconnue comme un bâtiment emblématique effectivement de la région, donc c'était important aussi qu'elle reste moderne et qu'elle se fonde aussi dans ce patrimoine riche qui est celui de Limoges.
Oui, il me semble effectivement qu'il y a quelque chose de l'ordre de la centralité sur cette bibliothèque qui est d'ailleurs établie sur les vestiges gallo-romains de l'ancienne cité de Limoges.
Exactement, donc qui fait partie de l'histoire tout en étant extrêmement moderne. Comment on la définit finalement? C'est un lieu de culture, j'ai envie de dire.
Ah oui, et pas uniquement un lieu de lecture, en effet. Un lieu de culture, puisque à travers son hall, elle sensibilise aussi la population à la dimension artistique. On a un programme d'exposition assez nourri tout au long de l'année, mais également sur le multimédia, sur l'audiovisuel. On participe en ce moment au mois du film documentaire. On a un programme de concert pour initier à tous les genres musicaux. Voilà, plein d'animations sur la lecture et la culture en général.
C'est un bâtiment qui est extrêmement vaste. Ça fait combien de superficie ?
Approximativement 15 000 mètres carrés.
Donc ça fait des choses à meubler. Il y a évidemment toute la partie bibliothèque qui est déjà riche en ouvrages, mais partout ailleurs, bah, il faut régulièrement proposer des nouvelles choses, des nouvelles expos par exemple.
Et oui, il faut toujours séduire. Il se trouve qu'on a quand même une sacrée concurrence avec l'arrivée des médias modernes dans les foyers et maintenant dans les poches. Et la bibliothèque a toujours une carte à jouer, je crois, et qui est de l'ordre de la rencontre, du déplacement de soi et de l'échange, de la construction du citoyen, ce que n'apporte pas forcément avec toute la facilité qu'on promeut les outils numériques.
Et puis alors, justement, puisqu'on parle d'équipe, on dit la BFM, mais ce sont plutôt les BFM, si on veut être tout à fait juste.
Oui, si on voulait être exact, sémantiquement, on dirait le réseau BFM. Avec effectivement, au-delà de cet établissement emblématique du centre-ville, un réseau de proximité qui a été rénové récemment avec l'ouverture l'année dernière de la médiathèque de Laurens. 5 établissements en tout, 6 dans les différents quartiers les plus excentrés, et qui permettent de toucher une population conséquente et d'apporter un service au pied de chez soi.
Avec une fréquentation qui, elle aussi, est conséquente. Alors, on n'a pas forcément de chiffres sur les emprunts, mais en termes de passage, en tout cas, on sait que beaucoup, beaucoup de monde fréquente cette BFM.
Oui, alors rien que sur l'établissement du centre-ville, on compte à peu près 1 million de passages par an. Et il faut rajouter 500 000 sur l'ensemble du réseau.
L'aspect technologique, on a parlé de la modernité du bâtiment. Quand on parle de bibliothèque, on a toujours l'impression que c'est austère, ancien. L'idée ici, c'était au contraire d'être en prise avec la modernité. Il y a les ordinateurs, il y a Internet, il y a des bornes tactiles. Tout ça fait le succès de la BFM.
Oui, alors dès l'origine, il a été assis cette idée que le multimédia faisait partie vraiment du développement. du citoyen. Et dès le hall d'entrée, on peut accéder à Internet sans condition sur des bornes, comme on pourrait les trouver dans d'autres lieux que des bibliothèques. On a un programme de pédagogie multimédia aussi qui est assez fin et soutenu tout au long de l'année dans l'ensemble des établissements, pas qu'au centre-ville. Et on travaille aussi sur la notion de maîtrise technologique pour chacun, avec un programme autour des logiciels libres. On essaye également de suivre les nouveaux usages avec des ateliers sur le codage, sur la robotique, vu de manière ludique, enfin sur tous les aspects qui font le numérique d'aujourd'hui.
Pour terminer, on l'a dit, vous êtes là depuis mai 2016. Un mot sur votre parcours et comment on arrive à prendre la tête de la BFM de Limoges ?
Alors, sans aller trop loin dans ma biographie, je viens du Var, où j'ai été directeur d'un réseau dans l'aire toulonnaise à la Seyne-sur-Mer. Et le projet de Limoges m'intéressait de par la qualité de cet établissement et de son réseau, et aussi des projets qui sont en cours sur un renouveau, comme je le disais, après 18 ans. Il est intéressant de voir comment a évolué cet établissement et d'émettre des propositions pour la rendre encore plus généreuse. Donc, sans dévoiler par trop nos projets pour 2017, nous allons consacrer au printemps un élargissement assez notable des horaires d'ouverture. Et nous allons également ouvrir un nouveau portail Internet et puis plein d'autres choses, avec sans doute la mise en place d'actions hors les murs pour aller au-delà des publics que nous touchons déjà.
Oui, parce qu'on se dit, il a 18 ans, cette BFM, elle est autonome. Finalement, bah non, quand on est majeur, on a encore besoin d'être accompagné, guidé par la famille et les parents, bien souvent.
Oui, la vie s'arrête pas à l'âge adulte. Il est concevable de penser qu'elle démarre d'une certaine façon.
Elle a encore plein de choses à apprendre et à nous faire découvrir cette BFM. Et c'est ce que l'on va découvrir tout au long de la semaine en parcourant les différents services, à commencer par le cœur des activités. On va aller au milieu, évidemment, des rayonnages dès demain. Et puis, on va vous laisser bosser sur tous ces beaux projets, en tous les cas, que vous nous préparez pour les années qui viennent.
Merci beaucoup.
Et c'est notre deuxième rendez-vous consacré toute cette semaine à la bibliothèque francophone multimédia de Limoges, que l'on appelle BFM, pour aller plus vite. Et nous allons un peu mieux découvrir les lieux. On a parlé beaucoup d'histoire hier avec le directeur Julien Barlier, mais aujourd'hui on va s'intéresser vraiment à ce site qui est assez vaste. Donc on va le parcourir pour ceux qui n'y ont jamais mis les pieds, puis on va expliquer effectivement comment il fonctionne très concrètement avec notre nouvelle invitée, Marie Chemartin, qui est assistante de conservation du bibliothécaire, tout simplement.
Oui, tout à fait. Vous voulez dire bibliothécaire, c'est plus facile.
Voilà, on va dire bibliothécaire et BFM, comme ça c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Alors je l'ai dit, ce lieu il est très vaste et il regroupe énormément de pôles différents. On peut vraiment trouver son bonheur, quoi que l'on cherche, on va trouver des pépites ici.
Oui, alors effectivement, donc la bibliothèque donc fonctionne par pôle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau du fonds, on a un fonds très très conséquent de documents. On doit être autour de approximativement plus de 800 000 documents au total. Donc livres, CD, DVD, tout confondu. Ces fonds sont répartis par pôle. Vous avez le pôle jeunesse qui va concerner tout ce qui va être pour les enfants, donc des bébés jusqu'aux adolescents. Ensuite, vous avez le pôle littérature, sciences humaines et sociales et histoire-géographie. Donc, vous allez avoir toute la littérature, la poésie, le théâtre, tout ce qui va concerner l'apprentissage des langues étrangères également, ainsi que tout ce qui est histoire-géographie. Vous avez également le pôle sciences et techniques qui va regrouper donc toutes les sciences, donc les mathématiques, les sciences physiques, tout ce qui va être technique également. Donc dans les techniques, on comprend tout ce qui va être jardinage, par exemple, les animaux, la couture, la cuisine. Vous avez un espace avec des magazines, donc on a à peu près 800 titres de magazines. Ensuite, nous avons un pôle Limousin qui va regrouper tout ce qui va concerner donc la région. Donc tous les auteurs régionaux, la musique régionale, des guides touristiques de la région, etc. Vraiment tout ce qui concerne le Limousin.
Pas encore ouvert le pôle Nouvelle-Aquitaine, c'est pas encore fait ?
Non.
Soyons chauvins un peu.
Le Limousin. Voilà, et ce pôle Limousin s'occupe aussi de tout ce qui est patrimoine. Donc il faut savoir que, bien sûr, nous avons un fonds ancien qui est conservé à la bibliothèque. Donc bien sûr, ils ne sont pas empruntables ni en accès direct. Ce sont des documents qui sont consultables sur présentation d'une pièce d'identité au sein même de la bibliothèque. Voilà, et donc pour terminer, nous avons également le pôle art, donc à l'étage, qui va regrouper tout ce qui va être musique, cinéma, l'art, donc peinture, sculpture, les livres de sport également, tout ce qui est bande dessinée, donc séparé entre les comics, les mangas, les bandes dessinées par auteur ou par série.
Une façon de dire aussi que la culture, ça regroupe énormément de choses. Voilà, c'est un mot qui fait parfois un peu peur, mais là on voit que effectivement on va aller du magazine au jardinage jusqu'à des choses artistiques beaucoup plus pointues.
Oui, tout à fait. En fait, au sein de la BFM, vous allez trouver des documents, que ce soit du niveau tout public à des choses un peu plus pointues au niveau universitaire. Donc on balaye un public assez large. Voilà.
C'est ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rencontre finalement ici dans des publics qui n'ont pas l'habitude finalement de se croiser.
Oui, effectivement, oui, on a plusieurs types de publics qui cohabitent. Alors le jour le plus, on va dire le plus chargé, c'est le samedi, puisqu'on accueille vraiment les familles. On accueille aussi beaucoup les étudiants qui viennent s'installer pour travailler sur place. Donc les familles, et ça, c'est un jour très très important en fait.
On ne s'ennuie pas, en tout cas voilà. Ici pour l'équipe. Bon, nous on s'est mis Radio Oblige hein, dans le compartiment CD. Comme ça, ça ne nous dépayse pas trop. Très concrètement, comment ça fonctionne ? C'est un site qui est ouvert à tout le monde ?
Oui, alors donc l'entrée dans la bibliothèque est entièrement gratuite et libre, même sans être inscrit. L'inscription permet d'emprunter et d'utiliser aussi Internet sur place, puisqu'on a un accès Wi-Fi et des postes dédiés à la consultation Internet.
Oui, c'est ça, parce que bon, on va s'avancer, parce que du coup, je ne les vois plus, on s'était un peu reculé, mais effectivement, quand on vient s'installer, alors déjà, il y a une vue panoramique assez sympa, hein, pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds, voilà, on n'est pas sur des choses très rectilignes, hein, il y a effectivement des meubles en arrondi, des bibliothèques en arrondi, donc voilà, il y a visuellement quelque chose de très intéressant. Et effectivement, il y a ces postes Internet, donc ils ne servent pas qu'à faire des recherches pour trouver les livres dans les rayonnages.
Non, effectivement, donc les postes qui sont autour de la mosaïque sont les postes qui servent à consulter Internet librement, en fait. Voilà. Donc sans forcément consulter uniquement ce qui concerne la bibliothèque, ce qui est le cas pour les autres postes disséminés dans les espaces.
Ça aussi, c'est une façon de donner accès à la culture librement, gratuitement pour tout le monde.
Oui, tout à fait.
Alors ensuite, je viens et je veux emprunter des ouvrages, donc il va déjà falloir s'inscrire, c'est le principe.
Voilà, donc l'inscription donc se fait au niveau de l'entrée, au niveau de l'accueil. Alors cette inscription, elle est gratuite pour les résidents, les personnes qui habitent sur Limoges, la commune de Limoges, et payante, donc montant de 25 € pour les personnes extérieures à la commune. Et l'inscription est également gratuite pour les moins de 26 ans. Une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez emprunter donc jusqu'à 20 documents au total, donc ce qui est quand même assez important. Vous empruntez pour une durée de 3 semaines ces documents-là.
Et alors, cela dit, avant de pouvoir les prêter, il faut les acquérir, il faut les faire venir ici. Comment ça se passe ? Qui sélectionne ? Qui choisit les ouvrages ? On essaye d'avoir un petit peu de tout.
Voilà, alors en fait, chacun d'entre nous s'occupe d'une partie des fonds. Donc pour moi, par exemple, ça va être la partie DVD. On travaille à deux sur ce fonds DVD. Et donc chacun a un budget et au sein de ce budget doit l'utiliser pour acheter donc des documents dans son domaine.
C'est vous qui décidez finalement, donc on fait quoi ? On essaye de s'adapter au public, on essaye de connaître un petit peu les goûts, les demandes du public ?
Oui, bien sûr, on essaie de bien connaître nos publics. En sachant qu'on a un public très varié, donc c'est vrai que la possibilité de choix de documents est assez large, puisqu'on a des demandes tout public et des demandes aussi un peu plus pointues. Voilà, l'idée c'est de répondre à la demande de nos lecteurs et aussi d'essayer de leur proposer des choses qu'ils ne trouveraient pas nécessairement ailleurs qu'en bibliothèque. Et après, nous avons des cahiers de suggestions, donc ils peuvent aussi, s'ils ne veulent pas nous les dire directement, les noter. Et puis,
si j'assume pas le film un peu ringard, mais je veux quand même le voir, donc je le demande discrètement dans le recueil de doléances.
Voilà.
Bon, après, au niveau du cadre de travail, c'est vrai que quand on dit bibliothèque, on pense calme, silence absolu. Comment on vit au quotidien ?
Alors, effectivement, donc une bibliothèque municipale, effectivement, c'est un lieu qui n'est pas complètement silencieux. Ce n'est pas une bibliothèque d'études, c'est une bibliothèque qui est ouverte à tous. Alors là, aujourd'hui, on le voit, c'est quand même relativement calme. Après, les samedis, c'est quand même assez bruyant, malgré tout, puisqu'on a quand même beaucoup de monde. Et donc les publics essaient de composer, puisqu'on a des étudiants aussi qui viennent pour travailler, donc qui ont peut-être besoin d'un peu plus de calme, donc essaient de s'isoler dans certains endroits de la bibliothèque.
Mais c'est un vrai lieu de vie avant tout.
Oui, c'est un lieu de vie avant tout, et voilà, les gens peuvent venir aussi. On a aussi des personnes qui viennent simplement passer un moment et discuter, voilà.
Et d'autres qui viennent pour des animations ponctuelles qui sont organisées également régulièrement ici. On verra ça en fin de semaine. On aura l'occasion de se retrouver. Pour l'instant, on va aller faire un petit tour dans ces unités un peu moins connues, hein, de la BFM, que sont les secteurs de la numérisation et l'atelier relure. C'est ce qu'on verra dans nos deux prochains rendez-vous. Et notre troisième rendez-vous, toujours installé à la bibliothèque francophone multimédia de Limoges, la fameuse BFM, dont nous allons continuer de parler avec une autre interlocutrice, Laura Fabry, en l'occurrence, qui est responsable du service numérisation ici. La numérisation, c'est un gros boulot, j'allais dire un gros travail d'équipe, mais je crois que j'ai toute l'équipe devant moi, finalement, c'est un peu ça.
Oui. Le service numérisation, en fait, c'est une personne. Une personne qui s'occupe de, un, numériser, c'est-à-dire prendre en photo des documents, ensuite transformer ces photos en quelque chose de présentable, parce qu'on passe pas d'un document en trois dimensions, un livre, à une page sur Internet qui se lit. Donc ça demande un petit peu de travail. Et puis après, mise en ligne sur un site dédié qui est une bibliothèque numérique du Limousin, où on peut consulter effectivement les ouvrages et voir la diversité de nos collections.
L'idée, c'est que ça a commencé un petit peu avec Gallica, qui est un peu la référence.
Oui, effectivement, Gallica, c'est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, plus d'un million de documents en ligne, et effectivement, c'est la Bibliothèque nationale qui donne le ton en la matière, mais la Bibliothèque nationale ne peut pas tout faire, elle a besoin du soutien des grandes bibliothèques locales, donc nous sommes pôle associé, ça veut dire partenaire de la Bibliothèque nationale, et toutes nos collections qui sont sur le site de la Bibliothèque numérique du Limousin sont visibles depuis Gallica.
Alors, on va expliquer comment ça se passe. Ça a démarré quoi, 2010-2011, avec la belle bête qui est à côté de nous.
Oui, la belle bête, ça s'appelle un copybook. C'est un scanner, mais dédié aux livres. Il permet de numériser, de scanner les livres à plat, sans abîmer les reliures, parce qu'un livre du 18e siècle ou même du 15e, c'est assez fragile, et on peut pas mettre brusquement, comme sur un scanner, un truc dessus. Ça demande un petit peu de soin si on veut continuer à ce qu'il soit viable.
C'est un gros investissement financier, je suppose, et qui demande une technique très particulière pour l'utiliser.
Oui, c'est ça. Alors, c'est 50 000 euros, la petite bête. Un peu de technique, ouais, parce que tout objet technique sophistiqué demande un petit peu de pratique. Bon, ça s'apprend. Et puis, un petit peu aussi de pratique logicielle derrière. Il y a de quoi s'occuper.
Alors, justement, qu'est-ce que l'on numérise concrètement? Qu'est-ce qui vient passer entre vos mains et entre les rayons de cette machine?
Oh, quantité de choses. L'idée, c'est de donner un aperçu le plus vaste possible de nos collections, parce que les collections patrimoniales, effectivement, par définition, elles sont patrimoniales. Ça veut dire qu'on ne peut pas les mettre entre toutes les mains. Elles sont fragiles. Vous pouvez bien évidemment venir consulter l'encyclopédie Diderot d'Alembert, édition originale, ici à la bibliothèque, sur simple demande, il n'y a pas de problème. Néanmoins, certains livres, vous n'avez même pas connaissance de leur existence. Donc l'idée, c'est de pouvoir numériser un panel de nos documents, des à peu près 50 000 documents anciens que l'on peut avoir, et puis les consulter, avoir une diversité de tout ça. Donc passe ici, des livres anciens, des manuscrits, des livres sur parchemin un petit peu aussi, mais aussi beaucoup de plaquettes du 19e siècle. Le 19e siècle est une époque fabuleuse où on avait une inventivité, une envie d'apprendre très riche, et qui ressemble beaucoup à notre époque. Et je mets souvent en regard des textes du 19e siècle avec la période contemporaine, par exemple.
Alors vous, quelle sensation de travailler justement avec ces ouvrages très rares, très fragiles pour certains d'entre eux? C'est un honneur, c'est une pression aussi, finalement, de les manipuler?
C'est exactement le cas. C'est un honneur, une pression, c'est aussi une curiosité toujours renouvelée, parce que j'apprends plein de choses. C'est-à-dire que c'est effectivement, il y a le travail entre nous, le travail de numériser, le travail des fichiers sur un écran, c'est pas passionnant. Mais par contre, pouvoir passer des documents fabuleux tous les jours et tous les jours renouvelés, ça c'est un vrai enrichissement, d'autant qu'après, je poursuis le travail en les mettant sur la bibliothèque numérique, en enrichissant leur description, j'explique ce que c'est, l'histoire, j'essaie de faire une fiche grand public pour donner envie et maintenir l'enthousiasme que j'ai eu en tout cas, les numériser.
Et puis on se dit, on les fait passer à la postérité.
Alors, Moi, je vais rectifier un tout petit peu. Travail pour l'avenir, non, parce qu'on est sur un outil technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Internet, c'est ça, et la bibliothèque numérique, c'est ça. Effectivement, je scanne des fichiers, etc. Non, l'objet d'avenir, c'est le livre, si je puis me permettre. Un manuscrit du XIIIe siècle, il est bien meilleur état que n'importe quel objet technique et ordinateur qu'on aura, qui va périmer dans très peu de temps. Donc, je sais que le travail que je fais est transitoire, mais c'est le prétexte pour manipuler ces beaux documents. L'essentiel, c'est le livre original et vous pouvez, je le répète, venir les consulter.
Ah, on reste toujours amoureux du livre, du papier quand on travaille à la BFM.
Ouais. C'est vraiment l'objet livre, c'est quand même passionnant et c'est toujours pareil. C'est au moment où il disparaît qu'on en prend conscience. Et
même au service numérisation. Alors, on a parlé de cette bibliothèque numérique du Limousin. Alors, on peut le trouver via le site de la BFM, mais il y a un site qui lui est dédié. On se dit livre ancien, ça va être pompeux, ça va être pénible à les regarder, alors qu'on va y retrouver des petits trésors. On a vraiment des choses effectivement très culturelles et d'autres qui font finalement référence à la vie d'antan avec des choses très anodines, très drôles, parfois un peu osées.
Oui, vous irez voir. Si ça vous tente, on a un charmant petit billet de bordel, vous irez voir, qui est assez explicite si vous voulez vous amuser. On a aussi des notices sur le règlement de la circulation routière en 1919 et vous apprenez comment on se débrouille quand on n'a pas son permis de conduire pour passer par la voie détournée derrière la chemin de fer, etc. On a la vie de monsieur Labasse-Montaigne qui était un observateur de comètes, simple paysan au fin de fond de sa campagne. Et puis aussi des faits divers, des publicités ancienne, enfin, quantité de choses. Non, c'est tout sauf rébarbatif. Enfin, j'essaye.
Et le Limousin d'antan, parce qu'effectivement, on va retrouver beaucoup de cartes postales, par exemple, des images de cette région qui a beaucoup changé, forcément, au travers des siècles.
Ah oui, alors si vous pouvez, alors il y a quelques photos en ligne avec la possibilité de les géolocaliser. Vous pouvez voir le Limoges d'aujourd'hui et le Limoges d'hier et comparer les deux. Ça, c'est effectivement une bonne chose. On a particulièrement un fond de plaques de verre d'un épicier photographe des campagnes limousines. Il y a un petit site qui lui est dédié, mais aussi vous pouvez regarder les 3500 plaques de verre ici en venant à la BFM. Vous verrez toutes les campagnes limousines et vous pouvez retrouver tous les métiers d'antan, le sabotier, le maréchal Ferrand, tous les bourgeois qui se font beau le dimanche et les fêtes, toutes les fêtes avec les manèges. Enfin voilà, un grand moment de plaisir.
C'est très collaboratif.
Alors oui, surtout vous mettez un document sur un catalogue, sitôt que vous dites que vous existez, les chercheurs se manifestent parce qu'il y a, et ça c'est une grande chance. Mais vous pouvez venir en salle. Si vous avez une recherche particulière, singulière, que vous avez un document que vous ne pouvez pas prendre en photo, ou parce qu'il est trop fragile et précieux, effectivement, je propose de numériser au cas par cas, ça s'étudie, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de demandes et que je suis, vous avez compris, toute seule, mais j'essaye dans la mesure du possible de rendre service.
Et l'autre avantage, c'est que tout cela est libre de droit.
Pas de restriction, c'est ce qu'on appelle la licence ouverte qui vous permet une réutilisation totale, y compris commerciale. Si vous voulez refaire des cartes postales avec certaines des photos libres à vous, c'est gratuit. Profitez-en, c'est un bien public, nous sommes une collectivité et c'est un service normal rendu aux usagers.
Et c'est grâce à Laura, donc on aura une petite pensée pour tout le travail accompli. Et puis le travail, vous n'en manquerez pas, on a beaucoup parlé du fonds de Jean-Marie Mas par exemple, c'est encore à la porte de Laura qu'on va venir frapper.
Aïe aïe aïe, le fonds Jean-Marie Mas, oui c'est énorme, c'est une mine incroyable. Alors on l'a reçu il n'y a pas longtemps, il faut savoir qu'il est arrivé au mois de mars, une experte de la BNF qui est venue faire le constat de tout ce qu'il y avait et elle a halluciné devant les richesses et les trésors qu'on a pu y trouver. Pour le moment, donc, quand ça arrive, ça fait je ne sais plus combien de milliers de documents qui arrivent, il faut le temps de les étudier, les protéger, donner toutes les... Alors, c'est tout un travail qui est derrière, qui ne se voit pas, mais qui est colossal. Un énorme projet, oui, pour 2018.
Il va falloir se relever les manches et il va falloir prévenir notre ami numériseur qu'il va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.
Oui.
Mais vous allez passer du temps ensemble.
Ouais.
Alors, on ne va pas vous retarder et nous, on va changer de secteur puisque dans notre prochain rendez-vous, c'est un autre coin de la BFM largement méconnu du grand public que nous découvrirons, l'atelier Reliure. Bon courage, à bientôt.
Merci à vous.
Et c'est notre quatrième rendez-vous au cœur de la bibliothèque francophone multimédia de Limoges, toujours cette BFM que nous découvrons. Nous allons changer d'interlocuteur, d'interlocutrice en l'occurrence, puisque nous avons changé de secteur. Alors là, on est dans un lieu que le public n'a pas l'habitude de fouler, ce n'est pas un lieu en libre accès, c'est l'atelier Reliure et nous sommes en compagnie de Pauline Lémoni qui œuvre ici aux côtés d'Éric Brieux, qu'on va saluer, qui n'est pas là. C'est Pauline qui va nous expliquer un petit peu quel est son travail, comment on peut définir cet univers, cet atelier particulier Reliure ?
Déjà, c'est un univers très très varié. Donc nous, on s'occupe d'énormément de choses en fait ici. Donc on a une petite partie qui est réservée donc aux documents qui sont en accès direct, donc tous ceux qu'on peut retrouver en rayon. On s'occupe des réparations d'urgence et des documents un peu particuliers, comme par exemple les documents de jeunesse.
Ça veut dire quoi, réparation d'urgence ?
C'est surtout pour les documents qui sont déjà attendus par le reste du public. En fait, c'est des documents qui peuvent être réservés. Donc là, on essaye d'aller un petit peu plus vite parce qu'on sait que derrière il y a une attente de notre public. Et donc voilà, bon, après pour le reste on fait travailler un petit peu l'extérieur, mais nous la plus grosse partie de notre travail c'est donc le fonds ancien. On s'occupe surtout de les nettoyer déjà dans un premier temps. Ensuite, nous faisons des réparations pour pouvoir les mettre à disposition du public.
Mais ça veut dire aussi qu'on les respecte, parce qu'un livre ancien doit conserver, oui, quelque part, son allure ancienne.
C'est ça. C'est-à-dire qu'on intervient le moins possible sur les documents. On fait rarement de restauration. Nous faisons des réparations vraiment pour remettre les éléments à leur place. Et voilà, faire en sorte qu'ils soient manipulables, mais on les laisse voilà, parce qu'ils ont quand même eu une vie assez chargée dans l'ensemble, donc on veut pas leur enlever cet élément là leur petite part de vie, quoi, on va dire.
C'est leur histoire finalement.
C'est leur histoire, donc il faut la laisser.
Alors concrètement, comment ça se passe? Là, vous étiez, avant que j'intervienne et qu'on casse le rythme du travail, sur un boulot particulier par exemple. Alors, ça surprend, je vois une planchette de bois, oui, posée sur un document. Alors concrètement,
donc là, j'avais dans les mains un populaire de 1916, voilà, donc qui a été relié en fait il y a quelques années avec un autre document qui n'avait aucun rapport. Donc nous avons dû en fait ce qu'on appelle débrocher, c'est-à-dire qu'on a décousu en fait une partie du document pour séparer les deux documents qui n'avaient aucun rapport l'un avec l'autre. Et donc là, j'étais en train de prendre les mesures pour faire une boîte sur mesure. Donc,
pour le protéger.
Pour le protéger, voilà. Parce que dans l'absolu, on peut pas faire autre chose. Mais pour éviter en fait d'autres dégradations, parce que là, si on le remet directement en rayon, il va y avoir des frottements, les pages vont se déchirer. Donc on fait des boîtes, nous, ici, à l'atelier, sur mesure.
Quel sentiment de manipuler un journal qui date de 1916 ?
On se sent jeune à côté. Non, c'est très intéressant parce que on peut pas s'empêcher de les feuilleter en fait.
On a le temps quand même de regarder, de les consulter comme ça.
Je sais pas si on a le temps, mais on peut pas s'en empêcher.
On le prend un peu.
Franchement, c'est trop tentant. On trouve vraiment, des fois, on peut tomber sur des pubs un peu particulières qui nous font rire parce qu'on les retrouve plus du tout aujourd'hui. Bon, là, c'est le populaire, mais on a dans le fond ancien, on peut avoir des livres de science, on peut avoir même des livres religieux qui mélangent la religion et la science. Enfin, c'est très curieux tout ce qu'on peut trouver. C'est vraiment très très intéressant.
Ouais, pour ceux qu'on frustre, qui disent oui, mais moi aussi j'aimerais bien le feuilleter. On rappelle, on en a parlé hier, qu'il y a la bibliothèque numérique du Limousin sur laquelle on retrouve ces fameuses publicités et tous les quotidiens qu'on peut également retrouver. On se balade un petit peu dans ce local, qui est pas très grand, mais on a quand même de quoi se tourner un petit peu.
Si on est bien là, on est
à deux, ça va.
Oui, on a la place, on a la place.
Alors justement, de ce côté-là, on est face plutôt à un atelier. Là, on n'a pas l'ordinateur, on est vraiment sur des manipulations, sans doute très techniques de restauration.
Alors là, on est plus dans la partie, nous, qu'on appelle artisanal, en fait. De ce côté, on fait les choses un petit peu plus minutieuses. En général, on y fait donc de la reliure. Donc ici, voilà, c'est vraiment les choses minutieuses. On retrouve en fait des éléments, des outils en fait qui ont toujours existé dans la reliure. Tout est manuel, donc voilà, hein, on a le cousoir qui est entièrement en bois sur lequel donc on fait la couture des documents. Et après, bon, il y a différentes. On a la presse, on a ce qu'on appelle la relieuse, donc qui sert à faire pas mal d'opérations de la reliure.
Donc on est vraiment. On colle, on coud. Il y a différentes techniques pour la reliure.
Alors, il faut savoir que pour une reliure dite traditionnelle, en fait, il y a 60 opérations.
Ah, quand même.
Voilà. Donc, on les fait ou on les fait pas, mais voilà, il y a 60 opérations et ça peut prendre beaucoup de temps et il faut avoir beaucoup de patience.
Et quand on bouquine à la maison, on a un œil du coup différent sur le livre qu'on a entre les mains, on le décortique un petit peu.
Oui, on évite le scotch, on évite ce genre de choses, hein, beaucoup, et on le transmet surtout, on évite. On dit aux gens d'éviter de faire tout ça.
Alors, il y a des choses très simples, il y a des reliures aussi qui sont plus, entre guillemets, collector, des choses plus artistiques. On se fait plaisir aussi dans la reliure ?
Alors nous, ici, un petit peu moins, parce que c'est vrai que du coup, par rapport au type de documents qu'on a, on évite de trop. On aimerait, hein, mais on évite.
Il y en a beaucoup à gérer aussi.
Oui, il y a beaucoup à gérer, mais avec la reliure, on peut se faire, on peut se faire énormément plaisir, que ce soit avec les décors, avec les matières, parce que donc ici, nous, on a des papiers marbrés, donc ce sont des papiers qui ont été faits à la main. Et donc on se fait plaisir parce qu'on a une très belle collection et on remercie nos marbreurs qui sont d'un peu partout. Et donc on a de la toile, voilà, classique, mais on a aussi du cuir ici. Donc voilà, de pouvoir manipuler tous ces matériaux, c'est très agréable.
Alors vous, comment vous êtes arrivé dans cet univers-là ? On a commencé par fréquenter la BFM ?
Alors oui, moi j'ai commencé par fréquenter la bibliothèque. Ensuite, bon, j'étais quand même dans le milieu. J'ai fait ma licence professionnelle en fait à Limoges, et donc je me suis insérée par la petite porte ici au pôle Limousin.
Et toi, c'était donc, à étage au-dessus.
Oui, c'était deux étages au-dessus. Et donc là, l'occasion s'est présentée. Je suis descendue donc au sous-sol.
Voilà. Bientôt le parking ou mais, on s'arrête là
Non, je vais m'arrêter donc... là, mais il faut quand même dire que je suis au sous-sol, mais l'atelier est très très lumineux. Faut quand même le dire. Nous ne sommes pas.
Vous n'êtes pas martyrisés ici.
Non, nous ne sommes pas dans une cave.
Une vraie passion, en tous les cas, pour vous, tous les jours, travailler le livre, toucher le livre. Et on l'a dit, on parlait de ces livres de 1916 tout à l'heure, ce populaire. C'est une sensation très particulière au quotidien.
C'est très particulier. Et puis surtout, les journées se suivent et ne se ressemblent pas du tout. Puis c'est toujours un plaisir aussi de voir ce qu'on est capable de faire et de voir l'avant et l'après. Toujours une satisfaction, surtout. De les voir repartir et d'avoir une seconde vie, voilà.
Avec la fierté de, quelque part, arrêter le temps sur ces petits chefs-d'œuvre parfois.
C'est ça, on se dit que peut-être que dans des centaines d'années, ce qu'on a fait aujourd'hui existera encore et que ce sera un petit peu grâce à nous quand même.
Et c'est notre dernière partie déjà de ce rendez-vous destination au cœur de la BFM, la bibliothèque francophone multimédia installée à Limoges. Et nous sommes à nouveau avec Marie Chemartin, assistante de conservation bibliothécaire. On l'a dit, on va faire simple pour terminer la semaine ensemble autour des animations. Parce qu'effectivement ici, c'est une bonne partie de votre travail, notamment alors sur un secteur assez particulier.
Oui, donc au niveau du fonds DVD. Donc effectivement, nous avons pas mal d'animations tout public. Donc ils sont largement communiqués dans notre agenda culturel, notamment tous les mois, on propose donc des films sur des thématiques. Et en parallèle, nous avons également des animations qui sont organisées en partenariat avec des associations et des organismes avec lesquels nous travaillons depuis maintenant 2 ans avec ma collègue. Donc l'idée, en fait, c'est d'amener ces groupes à venir voir des films dans la bibliothèque, donc les amener aussi à fréquenter le lieu bibliothèque. Donc ces associations, ce sont souvent donc des associations de primo-arrivants, par exemple le Culture Alpha ou les Restos du Cœur. On travaille aussi avec Delta Plus, qui est une association d'adultes handicapés qui viennent régulièrement. Parfois aussi des centres sociaux, notamment Alchimie à Beaubreuil. Voilà. Donc avec eux, on a fait des propositions de films que l'on peut leur montrer. Et ces associations et ces organismes, de leur côté, nous font régulièrement des demandes de films sur des sujets qui les intéressent et qui intéressent particulièrement leur public.
Et c'est plus facile de faire venir les gens pour les amener à la culture que de les laisser faire chez eux, parce qu'on sait qu'à la maison on est tenté par la télé, par des choses un petit peu moins culturelles.
Une fois effectivement que les gens s'approprient le lieu, donc nous on essaie de le faire avec ma collègue par les films parce que c'est le fond dont nous occupons, et par l'image on se rend compte qu'on arrive à faire venir des publics qui ne viendraient pas autrement et à leur montrer qu'il y a d'autres choses qui pourraient les intéresser, voilà, autres que ce qu'ils peuvent faire chez eux à la maison.
Alors évidemment il y a vos projections avec les DVD, puis il y a beaucoup d'autres animations. On va dans quelques instants aller faire un petit tour du côté des animations autour de la jeunesse, mais c'est des expos, c'est des rendez-vous, des conférences, il y a énormément de choses qui sont organisées quasiment quotidiennement ici.
Oui, il y a énormément de choses, donc oui, comme vous dites, les expositions, des conférences, des projections, parfois des concerts aussi, donc c'est très très vivant, et effectivement il se passe énormément de choses ici, donc il faut venir découvrir tout ce qui se passe à la bibliothèque.
Bon, en revanche, ce qu'on attendait, c'est votre groupe des Restos du Cœur qui est en train d'arriver. Alors je vais vous laisser œuvrer, on va voir un petit peu comment se passe une de ces projections DVD avant de filer du côté de la jeunesse. Merci en tout cas d'avoir été avec nous cette semaine.
Je vous en prie. Voilà, alors, donc déjà bienvenue. Vous êtes déjà venu voir des films, non ? D'accord. Alors, bienvenue à la bibliothèque. Donc aujourd'hui, le film que vous allez voir, c'est La Cour de Babel. Donc la réalisatrice a passé 1 an dans une classe de primo-arrivants, c'est-à-dire une classe de jeunes qui viennent d'un petit peu partout dans le monde pour apprendre à bien maîtriser le français. Puis ce que je ferai, c'est qu'à la fin, je reviendrai vous voir. Si vous avez un petit moment, vous me direz si le film vous a plu.
Voilà, on va laisser la projection se faire, la séance se dérouler. Et nous, on va discrètement filer vers les autres animations proposées. On va parler du secteur jeunesse. Ça se passe un petit peu plus loin qu'ici. Et nous avons donc changé de lieu. On est sur un site vraiment dédié au spectacle avec Séverine qui est avec nous, qui est agent du patrimoine en secteur Jeunesse plus précisément, puisqu'on va s'intéresser à ce jeune public qui évidemment est au cœur sans doute des préoccupations de la bibliothèque, parce que la culture, il faut y emmener les enfants dès le plus jeune âge. C'est votre principe, ça commence vraiment très très jeune.
Eh ben, la culture c'est bon pour les bébés, et d'ailleurs on commence nos animations à partir de 6 mois. Donc, une fois par mois, Marilyn accueille les 6 mois, 3 ans, le samedi matin pour faire l'éveil en comptine. Et moi, pour ma part, pendant les vacances, également le samedi matin, toujours la même tranche d'âge, le 6 mois, 3 ans, le babillage et compagnie.
Ça, on dit 6 mois, mais un bébé, ça fait que pleurer, on ne peut rien en faire, on ne peut rien leur proposer. Et bien au contraire, il faut casser ces idées reçues.
Tout à fait, il faut casser ces idées reçues parce que un bébé, c'est en pleine mutation, ça ne demande qu'à grandir, s'éveiller, et la culture, ça sert à ça. Et grâce aux adultes, aux parents forcément, mais aux grands-parents également et tous les adultes référents, on peut les amener à la bibliothèque. Alors c'est ce qu'on dit de temps en temps, les premiers livres lus sont des livres qui sont croqués. Alors là, je suis tout à fait d'accord, et tant mieux finalement. Et après, quand on les accueille un petit peu plus grands avec les classes ou en individuel pour des spectacles qu'on propose, eh ben la bibliothèque, c'est un lieu qui leur est familier, naturel, et ils y reviennent.
D'où l'intérêt de les accueillir le plus tôt possible. Alors, en plus, dans un cadre qui est magnifique, un mot sur la pièce dans laquelle nous nous trouvons.
Alors là, on se trouve actuellement dans la salle de l'heure du conte, où on propose du conte, justement, une fois par mois pour les enfants. Alors là, à partir de 3 ans, des bibliothécaires offrent leur lecture, offrent leur conte aux enfants. C'est une salle aussi où on accueille des spectacles durant l'année. Alors, des spectacles qui ont trait aux expositions qu'on a en parallèle, ou des spectacles qu'on accueille pour ponctuellement faire découvrir des artistes, des comédiens, des musiciens.
Alors, il n'y a pas que les tout-petits, il y a les plus grands aussi. Là, ça se passe en dehors.
Alors, on va sortir de la salle de l'heure du conte, et puis je vais vous présenter l'exposition qu'on a à l'heure actuelle.
Eh bien, on va aller voir ça. Wow. On voit qu'on change d'ambiance. Quand on parle d'exposition, là aussi, il n'y a pas le côté austère. Tous les sens sont en éveil. Voilà, c'est vraiment un moment, une petite parenthèse enchantée.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, carnet de curiosité qu'on expose en ce moment met en évidence un petit personnage inventé par Thierry Dedieu qui s'appelle Magnus Philodolphe Pépin. Il est haut comme 3 pommes, il a 329 ans et il regarde la nature. Il regarde les animaux, il regarde la faune et la flore, et il invente des machines. Des machines pour voler, des machines pour plonger dans l'eau, des maisons, voire même des machines pour faire de la musique.
Ça marche sur les enfants et aussi sur les grands-enfants quand ils viennent là, hein, ça n'est pas réservé qu'aux plus petits.
Tout à fait, d'ailleurs, derrière nous, on a des petits ateliers, des petites propositions d'activités pour les parents et pour les enfants. Alors quand on se rapproche...
On entend déjà les petits oiseaux et le bruit de l'eau.
Voilà, alors promis, on n'a pas mis en cage des oiseaux. Et donc ici, vous avez une proposition de création un peu à la manière du land art. Donc des cailloux, des coquillages, des branches, des marrons. Et avec tout ça, on demande aux enfants, accompagnés des parents aussi, de créer des personnages, de créer des machines, pourquoi pas. Et le tour est joué.
Alors, on cite pas tout, mais il y a une mise en scène qui est très, très originale et sûre. Alors, juste à côté, on se fait discret parce que nous avons des demoiselles qui sont allongées sur de gros coussins. Donc, on est vraiment bien. C'est la détente. C'est vraiment casser l'idée trop austère parfois que l'on peut avoir de la bibliothèque.
Oui, et je pense que architecturalement, la bibliothèque, elle est bien conçue parce qu'elle est grande, mais il y a plein de petits espaces. Donc, quand on s'approprie les lieux et qu'on revient assez régulièrement, les gens, ils sont confortablement installés dans un petit coin. D'ailleurs, quand on va dans l'espace des albums, vous voyez, il y a des petites maisons, et c'est vrai que les enfants aiment bien se cacher à l'intérieur de ces maisons pour prendre un album et le regarder tranquillement. C'est ça aussi la bibliothèque, c'est d'offrir à tous un petit peu de culture et un petit peu de rêve.
Et il se passera toujours quelque chose. On est loin d'avoir fait le tour cette semaine de tout ce qui est proposé à la bibliothèque. Et puis ça change tout le temps. Il y a des animations chaque semaine, en jeunesse ou ailleurs. Donc l'idée, c'est vraiment de venir, de revenir. On sera forcément toujours surpris.
Voilà. Et il y a l'agenda culturel qui est édité, alors soit en ligne, soit papier. Et pour avoir les informations de tout ce qui se passe sur le réseau de la BFM, adultes, enfants.
Et il s'en passe.
Et il s'en passe, oh oui.